Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour continuer à parler du livre Comment se faire des amis, toujours dans cette phase où on cherche à savoir comment rallier les autres à notre point de vue. Et ce soir, je vais vous parler du principe de respecter les opinions de votre interlocuteur. En gros, ça veut dire quoi ? Respecter les opinions de votre interlocuteur, c'est ne jamais lui dire qu'il a tort. Tu as tort, vous avez tort, c'est fini. Ne faites pas ça. S'il n'y a qu'une seule règle, une seule chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est de ne jamais dire à quelqu'un qu'il a tort, dans n'importe quelle situation. Pourquoi ? Pourquoi ne jamais dire à quelqu'un qu'il a tort ? Si vous dites à quelqu'un qu'il a tort, on va prendre par la contre-opposée. Si vous dites à quelqu'un qu'il a tort, cela va porter un coup direct à son intelligence, à son jugement et à son amour-propre. La personne va se sentir visée directement. Et surtout, que lorsque vous dites « tu as tort » ou « vous avez tort », même à un groupe de personnes, ça marche aussi, vous jugez les autres. Et lorsque vous êtes dans le jugement, la personne ne va pas aimer. Et dans la conversation, voilà, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer et rien de bon va sortir de cette conversation. Et lorsque la personne se sent menacée, parce qu'en fait c'est ça, vous allez discuter d'un sujet, mais lorsque vous allez juger la personne en lui disant « tu as tort », la personne elle va pas se baser sur ce qu'elle est en train de dire, elle va se dire « ok, elle est en train de me juger moi, ma personne est mise en danger ». Donc qu'est-ce qui va se passer ? La personne va adopter une attitude défensive. Et surtout, elle ne va pas changer d'opinion. Imaginons que vous devez affronter des Spartiates. Donc, ils sont, vous êtes sur la plage, vous combattez avec des gens de Sparte. Voilà, ils ont de gros boucliers, ils sont bien ancrés. Imaginons que vous ayez des flèches ou une épée et que vous essayez de les battre. Eh bien, les Spartiates, eux, vont être ancrés au sol. Ils vont avoir leurs boucliers devant eux et ils vont se recroqueviller pour former une unité très solide comme une tortue, voilà, avec une carapace très solide. Et plus vous allez taper fort, plus leur défense va être très efficace et solide. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est que plus vous allez essayer de juger les autres, plus vous allez essayer d'être dans la confrontation, plus la personne ne va pas changer d'avis et plus elle va adopter une attitude défensive. Et des choses à ne pas faire surtout, ne commencez jamais votre conversation ou votre dialogue avec une personne en disant « je vais vous prouver cela, je vais vous montrer que ». Si vous allez utiliser ces phrases, vous allez vous ériger directement en tant que quelqu'un de plus intelligent et de plus malin que la personne avec qui vous discutez. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez rentrer dans une atmosphère de confrontation. Et à partir de là, essayez de modifier l'opinion des personnes avec qui vous discutez, c'est littéralement mission impossible. Et comme je l'ai déjà évoqué dans le dernier épisode, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous des êtres émotionnels. Si on n'avait que le rationnel qui rentrait en compte, on baserait simplement toutes nos décisions que sur des choses factuelles, et là ce serait très simple de convaincre ou de persuader les autres ou de les rallier à notre point de vue. Mais là, on est des êtres émotionnels, donc il y a le côté émotion, et la personne va s'identifier à ce qu'elle dit, et si vous attaquez ce qu'elle dit, vous attaquez directement la personne. Et surtout, vous cassez le principe de montrer aux autres leur importance. Parce que là, si vous essayez de convaincre, si vous essayez d'être plus intelligent, plus malin, vous allez casser ce principe, et la personne va le ressentir. Elle va se sentir comme inférieure, elle va se sentir comme délaissée. Donc est-ce qu'elle va vous donner ce que vous voulez ? Bah non, elle va rester sur la défensive et surtout elle va garder son opinion. Donc comment faut faire ? Si vous voulez essayer d'avoir une discussion intéressante, que l'autre personne s'ouvre pour que vous puissiez parler et peut-être la rallier à votre point de vue, l'attitude à adopter, c'est d'être collaboratif. Dès que vous entrez dans la confrontation, c'est perdu. Quand je dis confrontation, c'est surtout un échange d'arguments logiques ou même rationnels ou de jugements. Vous n'allez pas gagner une conversation. Alors quand je dis gagner, c'est retirer ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas avoir une conversation intéressante et surtout pertinente si vous allez argumenter avec des arguments et si l'autre personne argumente avec ses arguments également. Imaginons qu'il y ait un débat politique entre un homme, je sais pas, de droite et quelqu'un de gauche. La personne de gauche veut augmenter les impôts et la personne de droite veut diminuer les impôts. Donc la personne de droite va dire oui, il faut diminuer les impôts parce que ça, parce que ça. Et la personne de gauche va dire non, je suis pas d'accord, il faut les augmenter parce que ça, parce que ça. Bah là, ils sont dans un débat confrontationnel. Ils essayent de convaincre l'autre en essayant d'imposer leur vision du monde, en donnant des arguments qui appuient leur point de vue. Et cette méthode n'est vraiment pas efficace pour essayer de rallier l'autre à son point de vue. Alors dans un débat politique, vous allez me dire, ok, de toute manière, c'est sûr qu'ils vont pas essayer de se convaincre l'un et l'autre parce qu'ils ont déjà des idées, et là le but c'est juste d'essayer de faire des clashs et d'écraser l'autre, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'il faut absolument pas faire. Donc pour revenir sur quelle est l'attitude à avoir pour essayer d'être dans une atmosphère déjà plus sereine, c'est d'être collaboratif. Donc lorsque vous discutez avec une personne qui a une opinion vraiment différente de la vôtre, à laquelle vous n'accordez aucun crédit, surtout, donc ne lui dites pas qu'elle a tort, ça c'est le premier point, on vient de le voir, et surtout faites preuve de diplomatie et d'humilité. Par exemple, vous pouvez lui dire « Écoutez, je n'étais pas du tout du même avis, mais je peux me tromper. » Et cela m'arrive souvent. Donc, si je me trompe, je veux bien rectifier mes pensées. Mais pouvons-nous examiner la chose, s'il vous plaît ? Ou examiner le sujet ? Et faire preuve d'humilité, c'est-à-dire vous placer au même niveau que la personne et lui dire « Ok, là, on a un problème. Il n'y a rien de personnel. Moi aussi, j'ai une opinion, mais je peux me tromper. Je peux ne pas avoir raison tout le temps. Mais j'aimerais bien qu'on avance tous les deux sur ce sujet parce que pour moi, c'est important. » Il faut que la personne comprenne que vous êtes de son côté. Et c'est ça, adopter une attitude collaborative, c'est se mettre du même côté que la personne et ensemble d'essayer de trouver une solution ou de parler du sujet qui va faire avancer les choses. Et là, vous n'êtes plus du tout dans le jugement, dans le fait d'avoir blessé l'autre personne au niveau de son amour-propre. Vous êtes juste dans une attitude collaborative où vous essayez de comprendre les points de vue de l'autre personne et aussi de comprendre le sujet, et de vous dire, ok, là, on va travailler ensemble. Peut-être que moi, je pense quelque chose, mais c'est peut-être faux, et si c'est faux, je vais admettre que c'est faux, je vais admettre que je me suis trompé, et c'est ok, on va avancer. Et la personne va sentir que vous avez une attitude ouverte, et dès que la personne va sentir que vous avez une attitude ouverte, elle va s'ouvrir aussi. Voilà, c'est les neurones miroirs, il se passe quelque chose dans le cerveau, mais en tout cas, les conversations qui sont les plus constructives, il y a cette atmosphère de collaboration qui est là au premier plan. Et rien de mauvais va survenir si vous admettez que même vous êtes prêt à faire des erreurs. Et aussi un autre point qui n'est pas évoqué forcément dans le livre, mais je pense que ça a toute son importance, c'est que tout se joue au niveau du non-verbal. J'entends par là que lorsque vous allez adopter une attitude collaborative, il faut que vous ayez cette vibe de curiosité et non pas de fermeté. Par exemple, si je suis curieux, je vais dire écoute Maxime, j'aimerais vraiment travailler avec toi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet. Est-ce que tu peux m'expliquer ton point de vue déjà ? Et moi, je pourrais t'expliquer le mien. Je t'avoue que pour le moment, on a des points de vue différents, mais moi, c'est complètement ok de comprendre le tien et je suis prêt à revenir sur le mien si je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, parce que des fois je me trompe, j'ai pas la science infuse, mais ce que je veux, c'est vraiment qu'on avance tous les deux. Et vraiment, voilà, avoir cette vibe de curiosité, montrer que vous êtes ouvert par votre non-verbal, que vous êtes dans une démarche d'écoute, la personne, elle va le sentir et vous allez pouvoir travailler avec elle. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est savoir comment une personne change et défend une opinion. Les êtres humains changent d'opinion. Même vous avez déjà changé d'opinion sur certains sujets, moi-même. Et assez souvent, on change d'opinion sans effort et sans émotion. Ça se fait comme ça, on pense à des choses, après on a peut-être un système de pensée qui est différent et on se dit « Ouais non, là, c'est vrai qu'avant j'avais une vision du monde où je pensais ça et maintenant c'est totalement différent. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens changent d'opinion sans effort. Donc dès que vous allez mettre de l'effort dessus, dès que vous allez faire un effort pour essayer de convaincre l'autre personne, il ne va pas changer d'opinion. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Les opinions, elles peuvent être formées avec légèreté, ok, mais par contre, elles seront défendues avec tout l'acharnement qu'il se doit, si quelqu'un se sent menacé. C'est ça en fait, c'est que si vous essayez vraiment de changer l'opinion de quelqu'un de manière directe, vous allez obtenir l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne ne va pas changer d'opinion parce qu'elle va se sentir blessée dans son amour-propre. Et voilà, c'est ce que je disais, ce n'est pas tant les idées, mais c'est surtout l'amour-propre. Donc il faut comprendre ça. Et justement, on le verra dans un autre principe où il faut vraiment s'intéresser à ce que pense la personne en posant des questions pour essayer de comprendre les croyances de la personne. Et là, lorsque vous voulez changer une opinion de quelqu'un, la personne va le faire d'elle-même. Et pour qu'elle le fasse d'elle-même, il faut remettre en question ses croyances. Donc il faut lui poser des questions pour savoir pourquoi la personne elle pense comme ça. Et en fait, vous allez le prendre par la main en lui posant des questions et vous allez le guider vers là où vous voulez. C'est exactement comme ça que les personnes changent d'avis. Mais vous n'allez pas faire changer d'avis quelqu'un en essayant de le convaincre de manière directe. C'est surtout ça le plus important à comprendre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger et respecter les opinions de votre interlocuteur. Et vous verrez que la plupart du temps, si vous faites cet exercice de manière, on va dire, pertinente et de manière en suivant toutes les étapes, vous allez remarquer que la plupart du temps, si vous êtes vraiment serein dans vos opinions et que vous questionnez les opinions des autres, les personnes vont changer d'elles-mêmes leur opinion. Ce qui peut se passer, c'est que vous avez des personnes qui vont croire des choses, mais elles ne se sont pas forcément posé la question « Ok, pourquoi je crois ça ? Attends, oui. » Alors là, par exemple, je sais pas, on peut dire, voilà, dans ça peut une croyance, la personne peut croire « Ok, dans les océans, tous les poissons sont rouges. » Bah, peut-être qu'elle a entendu ça à la télé ou peut-être que parce qu'elle a été chez plein de gens, elle a vu plein de bocaux où il y avait des poissons rouges et à chaque fois qu'elle demandait aux personnes « Ouais, tu l'as vu où ton poisson ?»« Bah, il vient de l'océan. » Bah, la personne a dit « Ok, tous les poissons rouges sont dans l'océan. » Et si vous discutez avec une personne et vous lui dites « Bah non, il y a des poissons de toutes les couleurs dans l'océan. » La personne va vous dire « Bah ouais, non, moi je pense qu'il n'y a que des poissons rouges. » Bah si vous êtes confrontationnel, vous allez lui dire « Non, il y a des poissons de toutes les couleurs et c'est comme ça. » Donc là, la personne va se braquer. Mais si vous lui posez des questions « Ah ouais, pourquoi tu penses qu'il n'y a que des poissons rouges dans l'océan ?» Bah je sais pas, à chaque fois que j'allais chez des gens, je voyais dans les bocaux que des poissons rouges, donc je me suis dit qu'il y avait que des poissons rouges. Ah ouais ? Et pourquoi ? Bah je sais pas, j'ai des bocaux. Okay. Mais tu penses que les bocaux c'est le même environnement que l'océan ? Non, mais je pense qu'il y a les mêmes poissons que dans les bocaux. Ah ouais, pourquoi ? Bah je sais pas, on a pris les bocaux dans les océans. Ah ouais, tu crois pas que l'eau qu'il y a dans les bocaux, ça vient du robinet ? On peut discuter de cette manière-là en posant des questions. Donc là, c'est un exemple un peu simplet, mais dans l'idée, c'est de poser des questions jusqu'à ce que la personne elle arrive à des contradictions dans ses pensées. Et on n'aime pas les contradictions, donc elle va d'elle-même changer son point de vue. Donc là, elle pourrait dire, par exemple, ouais, bon, voilà, il y a que des poissons rouges. La personne va dire, bah, ouais, t'as déjà regardé des documentaires où tu vois des poissons ? Moi, je crois que j'en ai vu d'autres couleurs. Ah ouais, c'est quel documentaire ? Vous allez lui dire quel documentaire ils sont. Peut-être que vous allez regarder une vidéo ensemble et la personne va voir qu'il n'y a pas que des poissons rouges et à ce moment-là, elle va changer d'avis. Mais ça va se faire sans avoir jugé l'autre. La personne qui lui a parlé va être plutôt dans un mode collaboratif pour essayer de comprendre ses croyances et elle lui prend la main, littéralement, pour lui dire « Bah regarde, tu vois, là, tu penses ça ?» Mais je pense que ton raisonnement, il est incomplet. Il faut aussi que tu regardes là pour voir comment ça se passe. Tu vois, il n'y a pas que des poissons rouges. Regarde, je te montre une vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Ok, bah c'est vrai qu'il n'y a pas que des poissons rouges. Et là, la personne, après, elle lui dit pas, ouais, tu vois, t'avais tort. Tu vois. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est vraiment d'avoir cette attitude collaborative et surtout, pour avoir cette attitude, il faut être serein, non réactif et non pas être émotionnel. Si vous commencez à crier, à vous mettre en colère, voilà, c'est terminé. Oubliez directement ce principe et oubliez la conversation que vous avez et oubliez le fait que vous allez essayer de convaincre votre interlocuteur, c'est game over. Ne faites jamais ça. Donc maintenant, je vais vous parler de storytelling qui illustre ces principes. Donc dans le livre, dans ce chapitre. Donc voici la première histoire. Donc je vais vous parler d'Horace Greeley et Lincoln. Donc pendant la guerre de sécession, Horace Greeley, un éditeur célèbre, était en conflit avec Lincoln. Pour rappel, la guerre de sécession, c'était une guerre civile qui s'est déroulée aux États-Unis de 1861 à 1865. Et cette guerre était entre deux camps. Donc on avait d'un côté le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique, donc l'Union ou le Nord, dirigé par le président des États-Unis Abraham Lincoln. Et en face, il y avait les États confédérés d'Amérique ou le Sud, dirigé par le président sudiste Jefferson Davis. Et là, dans cette histoire, donc, on avait Horace Greeley, qui était un éditeur célèbre d'un grand journal. Et il attaquait Lincoln. Et dommage qu'il n'avait pas pu lire, parce que ça n'existait pas encore, le principe de respecter les opinions de son interlocuteur. Parce que Horace Greeley, qu'est-ce qu'il faisait ? Il menait contre Lincoln une campagne de menaces, de critiques, en espérant le faire adhérer à sa cause. Et cela dura des années. Il a aussi écrit ce qu'on appelle une diatribe, donc c'est une critique violente, cruelle et sarcastique, le jour même où il fut assassiné par un autre individu qui s'appelle Booth. Et est-ce que toutes ces attaques ont modifié, ne serait-ce que de 1%, les pensées de Lincoln ou son comportement ? Bah bien sûr que non. Ce qu'on retient dans cette histoire, donc elle fut courte, c'est que les insultes et le sarcasme ne convainquent que très rarement, et surtout, ne les utilisez jamais si vous voulez vraiment essayer de convaincre une personne. N'utilisez jamais le sarcasme ou les insultes. N'écrivez pas des lettres où vous allez juste descendre votre interlocuteur ou la personne à qui vous envoyez la lettre. Ça ne marchera jamais. Et cette histoire en est un parfait exemple. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Benjamin Franklin en 2 minutes top chrono. Donc Benjamin Franklin, un diplomate accompli, c'était une personne qui a joué un rôle majeur dans le développement des relations franco-américaines notamment. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'a pas toujours été diplomate. Et lorsqu'il était encore qu'un adolescent, un vieil ami le prit à part et lui énonça ses 4 vérités. Et dans le livre, je vais vous le lire, il y a son ami qui lui envoie une petite lettre. Il lui dit « Ben, tu es impossible ». Tu es terriblement cassant avec ceux qui ne sont pas de ton avis. Tes contradictions sont pareilles à des soufflets. Aussi, tout le monde te fuit maintenant. Tes amis sont plus heureux quand tu n'es pas là. Tu en sais si long que personne ne peut plus rien t'apprendre. En vérité, nul n'essaiera jamais de t'enseigner quoi que ce soit. Ce serait fatigue inutile. C'est pourquoi tu n'as guère de chance d'accroître tes connaissances présentes qui, crois-moi, sont pourtant bien faibles. Donc Benjamin Franklin, quand il a lu cette lettre de son ami, il s'est dit « Ouais, en fait, il a raison. » Et là, c'est vraiment c'est vraiment un contre-exemple de tout ce que je viens de vous dire avant, de respecter les opinions de votre interlocuteur, parce que là, son ami, il a juste dit ce qu'il pensait et il l'a jugé en lui disant « Bah, tout le monde te fuit. » Mais il a plutôt fait quelque chose de factuel. Il n'a pas dit qu'il était une mauvaise personne, on va dire. Mais disons que ça a eu comme un électrochoc. Ça fait comme un électrochoc pour Benjamin Franklin. Et il s'est dit, ok, à partir de là, je vais devenir un goat, un king en relations humaines. Tout le monde va me kiffer, tout le monde va changer d'avis, tout le monde va se rallier à mon point de vue. Et il a fait quand même beaucoup, beaucoup preuve de sagesse pour comprendre que tout ce que son ami lui a dit, bah, il l'avait mérité. Il l'avait mérité en fait. Donc à partir de ce moment, il changea son attitude pour se corriger. Et il mit en place une règle très simple. Il s'est dit, ok, maintenant, dès que je vais être dans une conversation avec une personne, je vais éviter toute résistance ouverte avec les opinions de cette personne. Et surtout, je vais éviter de faire des affirmations positives de ce que je pense. Donc là, ça va dans le sens ne pas juger les autres, hein. Respecter les opinions des interlocuteurs, et surtout quelque chose qu'il a mis en place, c'est qu'il a changé le vocabulaire. Avant, il utilisait des mots très, très directs, du style « ouais, certainement, indubitablement », et après, il les a plus nuancés en disant aux autres, par exemple « je crois savoir que, j'imagine, je comprends, je conçois », et en faisant preuve de suggestion dans ses propos, il adopta une attitude beaucoup plus diplomate envers ses interlocuteurs. Et ce qui se passa, tout naturellement, c'est qu'il arrivait beaucoup mieux à écouter les autres. Et surtout, il arrivait à rallier les autres à son point de vue, parce que ses opinions, vu qu'il les mettait, il essayait plus de convaincre les autres, mais il essayait juste de les comprendre. Et vu qu'il avait des opinions très fortes, il était très sûr de ce qu'il disait. Et il avait aussi des... Enfin, quand je dis des opinions très fortes, c'est plutôt... Il avait des idées auxquelles il croyait très fort. Et vous savez, si vous essayez de persuader quelqu'un, en fait, c'est juste quelle est la réalité de la personne la plus forte qui va gagner. Voilà, si vous avez deux réalités différentes, deux personnes qui sont en train de parler, celle qui va être ralliée à l'autre, c'est la réalité de la personne qui va le remporter ou qui va gagner, ça va être la réalité la plus forte. Et c'est ce qu'il faisait avec ses interlocuteurs, c'est avec les avantages de sa nouvelle attitude, il arrivait à persuader les autres, ou les autres abandonnaient plus facilement leur point de vue, et vu qu'il exprimait les siennes avec clarté, et aussi il savait comment faire, c'est-à-dire que j'imagine que quand il discutait avec quelqu'un et qu'il voulait rallier cette personne à son point de vue, il posait des questions sur pourquoi la personne pensait ça, il savait quelles questions poser qui devaient être très ciblées pour obtenir toutes les informations dont il avait besoin, et après, il accompagnait cette personne pour la rallier à son point de vue, tout simplement. Et il faisait avec beaucoup de sérénité, j'imagine, ce qui faisait que l'ego de la personne ou son amour-propre était tranquille. Il n'y avait pas l'amour-propre de la personne en face qui était trigger, non, il n'y a rien de tout ça. Il savait s'y prendre et les résultats qu'il avait, c'est que ses interlocuteurs abandonnaient plus facilement leur point de vue et il les ralliait à sa cause. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, maintenant vous savez qu'il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas dire aux autres qu'ils ont tort. La prochaine fois, on continuera sur les principes de comment rallier les autres à votre point de vue et on parlera de la règle suivante. Admettez que vous avez tort. On verra pourquoi ça vous permettra de rallier les autres à votre point de vue. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Ciao !